Chapitre 18. L'hôpital Raymond Poincaré de Garches avait quelque chose d'angoissant en plein jour, avec ses deux immenses bâtiments blancs symétriques, reliés par une passerelle aux larges fenêtres. Mais de nuit, les hautes baies illuminées de l'intérieur ressemblaient à des dizaines d'yeux braqués sur le visiteur, tels ceux d'un insecte géant guettant sa proie. Alexis mit plus de 10 minutes à trouver son chemin, passant de couloirs déserts en escaliers mal éclairés, exhibant sa carte de la gendarmerie à chaque permanence pour, enfin, parvenir à une petite pièce en sous-sol, où patientait Michaelis, une pile de dossiers sur les genoux. « Désolé, je me suis un peu perdu », s'excusa-t-il.
« Vous ne connaissez pas le truc ?»
s'étonna le criminologue en le traversant de son regard blanc. « Quel truc ?»«
Quand vous cherchez une morgue dans un hôpital, demandez les cuisines, elles sont toujours à côté. »
« C'est vrai, ça ?»«
Vous verrez. » »«
C'est bizarre, non ?»«
Peut-être que dans l'inconscient des architectes, tout ça, ce n'est que de la viande, »
ironisa Michaelis.
« À moins que ce ne soit pour faciliter la construction. Quand on fabrique une chambre froide pour la nourriture, on peut bien en rajouter une de l'autre côté du mur pour les Maccabées. Vous êtes prêts ?»«
Je vous suis. » Michaelis entraîna le gendarme vers la salle attenante, comme s'il était l'officier en charge de l'affaire. Et ils entrèrent dans une longue pièce fraîche, avec plusieurs tables d'autopsie en inox. Trois étaient occupées par des corps sur lesquels étaient disposés des draps blancs, aux initiales de l'hôpital, sauf le dernier, celui d'Émilie M6, la mère de famille, qui était entièrement nue sous la lumière puissante des cyanétiques. Un homme arborant une moustache noire et des lunettes à grosse monture s'approcha, blouse et bonnet chirurgical sur la tête.
« Docteur Lévy, on n'attendait plus que vous pour commencer. Il y a des masques là-bas, et du baume mentholé. »
Alexis ne se fit pas prier, et se couvrit abondamment la lèvre supérieure de crème pour s'asphyxier les narines. Il n'avait pas l'intention de sentir l'odeur de la mort toute la nuit. Constatant que Michaelis n'en mettait pas, il reposa le pot.
« Vous êtes vacciné ?»«
Non, ça pue tout autant pour moi que pour vous, mais l'odeur est un indice en soi. »
Alexis n'était pas particulièrement coutumier des autopsies. Il n'avait jamais aimé ça. Trop méthodique pour lui. Cette façon de découper lentement et vider un être humain en scrutant chaque détail de son anatomie le mettait mal à l'aise. La femme qu'il avait rencontrée le midi même gisait là, sans plus aucune pudeur, sans plus aucune vie. C'était déjà impressionnant en soi. Elle avait la peau anormalement rouge vermillon, à cause de tout le sang qui avait teinté l'avant du corps après sa mort. Seuls ses tétons avaient conservé leur couleur rose clair. Il y avait aussi des marques blanches, partout où le corps avait été en appui sur le matelas. Elle ressemblait à un dalmatien inversé, sombre, avec ses pois pâles. Alexis nota le pubis finement épilé, sans savoir pourquoi son regard s'était promené là. Il préféra éluder la question. Et puis, il y avait ce sourire terrifiant, qui lui ouvrait la gorge d'une oreille à l'autre, et qui attirait tant l'œil que son visage ne semblait plus avoir d'importance. Pourtant, elle avait été belle. Une femme qui prenait soin d'elle. Sportive, ventre plat, triceps dessinés. Elle était châtain clair, les cheveux mi-longs. Alexis réalisa alors qu'il la voyait de face pour la première fois. Paupières closes, lèvres fermées. Ses mains étaient emballées dans des sacs en papier, scotchées au niveau des poignets pour ne pas risquer de perdre ce qu'elle avait sous les ongles. Il repensa aussitôt au lien sur le cadre du lit et détailla ses chevilles, dont l'une était particulièrement entaillée. Dans un geste désespéré, elle avait commencé à se mutiler en espérant se libérer. Le légiste tira sur le fil du micro qui pendait du plafond et appuya sur la pédale qui commandait l'enregistrement.
« Nous sommes le lundi 8 octobre, il est… »
Il fit un mouvement large du bras pour dégager sa montre.
« 21h37. » Et nous allons procéder à l'autopsie de… »
Coup d'œil sur l'affiche rivée à une tablette plastique sur un chariot en inox.
« Madame Émilie M6, 44 ans, retrouvée morte à son domicile ce matin. D'après les premières constatations sur place, le décès serait survenu entre minuit et 2, peut-être 3 heures. »
Il attrapa alors un flacon et un long coton-tige qu'il enfonça dans l'anus du cadavre en passant son bras entre les cuisses. puis il le tourna avant de le ressortir, pour le conserver dans le flacon refermé.
Eh bien, vous n'avez jamais assisté à une autopsie ?
S'étonna le médecin devant le regard incrédule d'Alexis.
Si, justement. Jamais vu ça.
Je travaille à l'ancienne, moi. Je déteste ces sondes qu'on enfonce dans le foie pour prendre la température. C'est traumatique. Ça peut compliquer les choses ensuite quand on ouvre.
Moi, je passe par les voies naturelles, d'où le prélèvement. Au cas où il y aurait eu violence sexuelle anale, mieux vaut effectuer le prélèvement maintenant.
Sur quoi, il enfonça cette fois un thermomètre dans l'anus.
La température sur la scène de crime était normale, inférieure à 23 degrés ?
Oui, confirma Alexis.
La victime était nue, c'est bien ça ?
Exactement.
Et allongée droite, pas en chien de fusil ? Parce que le chien de fusil conserve bien la chaleur et ça fausse les données si on n'en tient pas compte pour appliquer des correctifs.
Elle était couchée sur le ventre, presque toute droite.
Oui, ça correspond aux lividités cadavériques.
Une fois le cœur arrêté, tout le sang avait coulé sous l'effet de la gravitation vers le bas du corps allongé, remplissant le visage, la poitrine, les hanches et la partie avant des jambes. Les appuis du corps sur le matelas avaient empêché les vaisseaux de se remplir correctement, partout où de la matière appuyait sur la chair. Et toutes ces zones étaient à présent blanches, entourées de flaques violettes, ce qui donnait cette étrange air de dalmatien inversé. C'était les lividités cadavériques qui avaient pour principe de se fixer rapidement. Lorsqu'un corps était retrouvé dans une position ne correspondant pas à ses marques, il devenait évident qu'il avait été déplacé après la mort. De sa main libre, le légiste attrapa une feuille de papier, et Alexis reconnut les abacs de Hensge, ces étranges courbes qui permettaient d'opérer un rapide calcul pour déterminer l'heure de la mort. Lorsqu'il fut prêt, le docteur Lévy reporta la température anale sur l'échelle de droite. Ensuite, il appliqua quelques correctifs mineurs et traça une droite vers la température de la pièce. Alexis le vit tirer deux autres traits et hocher la tête.
« Morte il y a une vingtaine d'heures, ça correspond. De plus, la rigidité cadavérique est à son maximum, je pense. »
Le légiste fit le tour du corps pour estimer l'état général, puis il attrapa une paire de gants en latex.
« À l'ancienne, » confirma Michaelis tout bas.
« Comment ça ?»
fit Alexis qui ne suivait pas.
« Pas de sous-gants anti-coupure. »
« Non, »
confirma Lévy.
« Je trouve qu'on ne sent plus rien à la palpation avec ces trucs. »
Vous ne vous coupez jamais ? Demanda le gendarme.
Je vais user entre 3 et 4 scalpels pendant l'autopsie. Alors, vous imaginez bien que j'en découpe des tissus. Donc si, ça arrive. 1 à 2 fois par an, je me coupe. Ça fait partie du métier. Mais comme ça, au moins, je sens où je mets les mains, comment sont les organes, et ça glisse moins qu'avec ses gants en maille.
Alexis échangea un regard étonné avec Michaelis, qui, lui, resta de marbre. Lévy commença par passer un peigne dans les cheveux de la morte et récolta tout ce qu'il put dans un récipient en plastique qu'il disposa sur une paillasse non loin. Puis, il découpa méticuleusement les sacs de papier qui entouraient les mains et entreprit de gratter sous les ongles pour faire tomber les particules dans un autre récipient. Le légiste prit une main et l'examina. Seuls les poignets étaient meurtris et tachés de sang séché, et quelques-uns des ongles étaient cassés. Pas de sang sur les mains, commenta Alexis. Pourtant, elle n'avait plus ses liens quand il l'a égorgée.
Si, il y en a un peu là,
dit le médecin en montrant l'index droit de la victime.
Ce n'est rien ça. Elle devra en avoir les mains recouvertes pour se protéger le cou, pour retenir les flots.
Il l'a tasée quand il a eu besoin de la tuer,
déduisit Michaelis.
Pour l'immobiliser. C'est ce qui explique qu'elle n'a pas pu se défendre, ni même porter ses mains à sa gorge.
Il parlait de sa voix grave, son regard si clair qu'il semblait ailleurs, des yeux d'un autre monde, qui auscultait les morts, le passé, la violence. Richard Michaelis était dans cette pièce, à écouter les considérations médicales. Mais son esprit était dans la villa de Louvciennes, la nuit précédente, à reconstituer point par point les meurtres. Lévy remontait les bras de la morte, pointant plusieurs ecchymoses, qu'il détailla dans son micro avant d'aller écarter les cuisses de la victime pour inspecter ses parties génitales.
A priori, pas de signe extérieur de violence sexuelle. On vérifiera ça tout à l'heure en disséquant le vagin. Aidez-moi à la retourner.
Les trois hommes empoignèrent la femme et la firent basculer sur le flanc, pour examiner son dos. Alexis l'avait déjà constaté sur des scènes de crime. Le poids des cadavres était improbable. Comme si chaque kilo mort pesait le double du vivant. De là où il se tenait, il n'eut qu'à pencher la tête pour distinguer l'étrange symbole entre les omoplates. Ça a été fait avec une lame fine, blessure très certainement post-mortem. Pas d'effusion de sang ni même de coulure, commenta le médecin. Puis, il détailla les marques de coupure près des vertèbres, fit des clichés, et ils remirent Madame M6 sur le dos. On dirait qu'il lui a planté des petits hameçons sur la surface de l'épiderme, résuma le légiste. À plusieurs reprises, avec début de brûlure. Marque de taser ? Demanda Alexis. Très probable. Lévy attrapa un scalpel, et sans autre forme de recueillement ni la moindre hésitation, en planta la lame dans la cuisse froide, pour remonter en tirant sur le manche en acier. Une fine rigole pourpre s'ouvrit, avant que les doigts du légiste ne s'enfoncent à l'intérieur, pour tirer sur les deux bords, afin de transformer le sillon en une fente béante. Toute la chair de la cuisse était visible sous les sialitiques. D'abord, une minuscule pellicule jaune, puis la pulpe, au ton plus ou moins rosé, voire rouge sombre. Pas de lésion interne au niveau des jambes, commenta le médecin dans son micro. Il répéta l'opération au niveau des bras, puis débuta l'incision du torse, en démarrant juste sous le menton, jusqu'au pubis. Aucune goutte de sang ne coula. Il n'y avait rien que la chair dans laquelle le légiste multiplia les coups de scalpel pour se frayer un chemin à travers les premières couches de peau. Michaelis et Alexis assistèrent pendant plus d'une heure et demie à l'éventration progressive du corps, organe par organe, chacun passant à la découpe pour prélèvement. Le légiste vida le sang à la louche, raclant le fond de la cavité abdominale, avant de s'attaquer à la tête d'Emilie M6, qu'il ouvrit comme une tomate farcie, pour en ausculter la masse grise dans ses moindres détails. La morte avait le cuir chevelu rabattu à l'envers sur le visage, les cheveux lui masquant les traits, comme s'il ne fallait pas le reconnaître pendant cette phase délicate, où son cerveau qui avait contenu ses pensées, ses fantasmes, sa mémoire, était découpé en fines lamelles. Alexis commençait à avoir froid. Le légiste n'avait rien trouvé de plus. On l'avait tasée, probablement au rez-de-chaussée où elle s'était débattue, avant de l'attirer jusqu'à l'étage, où elle s'était arraché plusieurs ongles dans les marches, et de l'attacher au lit avec les cerflex. Là, le fantôme avait dû partir vers la chambre de l'adolescente pour y accomplir sa sale besogne. Les hurlements de la fille avaient sorti la mère de sa léthargie. Au prix de quelques millimètres de peau et de chair, elle avait dégagé ses mains de leurs entraves, avant que le tueur revienne, la tasse à nouveau, pour pouvoir l'égorger en paix. Enfin, il lui avait gravé leur signe de ralliement dans le dos, avait pris une photo, et s'était enfui en prenant soin de tout refermer derrière lui.
« Vous avez remarqué comme il n'a pas signé son véritable crime ?» interpella Michaelis.
« Il grave le signe sur la mère et pas sur la fille, » fit Alexis.
« Exactement. C'est la fille qui l'intéresse. C'est sur elle qu'il se libère, qu'il jouit. C'est elle qu'il massacre selon ses fantasmes et pourtant, c'est sur la mère qu'il signe. »
« Parce que la fille n'est pas digne de recevoir le symbole ?»«
Je crois au contraire que c'est par pudeur. Il n'a pas envie de tout mélanger. La fille, c'est à lui. C'est son jardin secret. Mais il doit tout de même s'affranchir de sa contrainte. » Il doit graver le signe. Alors, il le fait sur un corps qui ne l'implique pas autant, qui ne montre pas ce qu'il est à l'intérieur. Il signe parce qu'il doit le faire, pas parce qu'il le veut.
Il est obligé ?
Quelque chose dans ce genre, oui.
Comment peut-on soumettre un tueur en série ? Michaelis leva l'index devant lui.
Trouvez cette réponse et vous trouverez qui ? Je suis certain qu'il ne le fait pas par conviction profonde, mais parce qu'il le doit. Et après ce triple homicide, il y a fort à parier qu'il aura pris goût à cette distinction. Un double meurtre au moins. L'un pour pouvoir se libérer de ses pulsions. L'autre pour s'affranchir de son devoir. On les oblige à tuer, Alexis. Quelqu'un, quelque part, a trouvé un moyen de recruter des tueurs en série et de les soumettre à sa volonté. C'est aberrant.
Les prunelles glaciales du criminologue se plantèrent dans celles du jeune gendarme. et une décharge le fit frissonner.
C'est plus que ça. C'est théoriquement impossible. On ne peut façonner ou imposer un fantasme profond à autrui pour qu'il se l'approprie. Je pensais au départ que le fantôme, à cause de sa maîtrise, était le moteur du duo, que c'était lui qui avait l'ascendant, qui organisait toute cette mise en scène. Mais preuve en est qu'il est lui-même soumis à une volonté extérieure.
Alors ce serait la bête qui commande leur petit manège ?
Non, il est trop impulsif. Ce n'est pas le genre.
Un troisième ? Le pédophile ?
Les pédophiles ont rarement le profil de leader. Ce sont des complexés, des solitaires, vivant dans leur coin, loin des autres, loin des rassemblements. Il peut y avoir des exceptions, mais si c'était le cas, je crois qu'il aurait inondé le web avec ses photos, pour qu'on sente sa présence, son pouvoir, sa mainmise sur le système. Or là, vos services n'ont trouvé que quelques clichés, très peu en somme. Comme si lui aussi agissait par devoir, pas par envie. Non, je crois qu'il y a un quatrième personnage dans la boucle. Le maître des marionnettes. Celui qui tire les ficelles dans l'ombre. C'est pour lui qu'il se rassemble. C'est lui qui cherche l'union primitive autour de son ego. C'est lui qui les a réunis, pour mettre leur fantasme morbide derrière le nom d'une cause commune. C'est lui qui recrute, qui les forme, pour être si prudent.
Alexis regardait le corps d'Emilie M6, éclos, devant lui telle une fleur abominable. Malgré tout le baume mentholé sous ses narines, il pouvait sentir le parfum rance de la mort, le début de la putréfaction. Elle n'avait plus rien d'humain. Il n'y avait guère que ses jambes aux cuisses tranchées et ses bras ouverts pour lui donner une vague apparence humanoïde. Sa tête avait disparu sous son cuir chevelu récliné. Le sommet de la boîte crânienne manquait. Son abdomen était fendu. Sa peau, comme deux rabats béants, dévoilait l'intérieur d'un sac humain vide et brillant, dont la structure n'était plus faite que dos, côtes, vertèbres et tissus pourpres. Il y avait en liberté des hommes qui prenaient plaisir à contempler ce spectacle, ce champ de terreur moissonné par leurs fantasmes les plus déments. Le monde ne pouvait être un lieu noble tant qu'il abriterait pareille créature, songea Alexis. Sur quoi le légiste claqua dans ses mains.
« Ne nous endormons pas, messieurs, il en reste deux, dont celle qui est dans le plus mauvais état. »